Chers frères et sœurs en Christ, l'Évangile en ce troisième dimanche de l'Avent convoque une nouvelle fois la figure de Jean le Baptiste. Et pour cause, Jean le Baptiste est, ou devrait être, notre modèle. Il devrait être le modèle de tous les chrétiens. N'oublions pas que là, au moment où Jean-Baptiste parle, Jésus est déjà né. Et que donc, Jean-Baptiste n'annonce pas la naissance de Jésus, mais bien sa venue et sa présence parmi nous, parmi les hommes. En un mot, Jean manifeste, c'est-à-dire qu'il rend public celui qui est déjà là. D'ailleurs, l'Évangile le précise. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. Autrement dit, Jean-Baptiste qui rend témoignage est très précisément la voix de celui qui crie. C'est-à-dire qu'il n'est pas, comme souvent l'entend dire, la voix qui crie dans le désert. Au contraire, ne nous trompons pas, Jean-Baptiste n'est pas celui qui crie, il en est la voix. Et celui qui crie, c'est la parole, c'est le Verbe, c'est Jésus le Christ de Dieu. C'est lui, celui qui crie dans le désert. Autrement dit, Jean le Baptiste est la voix qui donne le son, alors que le Christ Jésus en est le Verbe fait homme qui donne le sens. Jésus-Christ est le crieur et Jean-Baptiste est la voix. Et cette parole et ce Verbe que Jean-Baptiste proclame n'est rien moins que celle que nous-mêmes, là où nous sommes et comme nous sommes, chrétiens, dont témoins sommes amenés à proclamer, à savoir tout simplement l'Évangile du Christ. Et dire cela, ce n'est pas une simple façon de parler, c'est le contenu même de notre foi que nous devons manifester, c'est-à-dire rendre public. Voilà pourquoi pour nous, Jean-Baptiste est un modèle, un témoin référence. D'autant, convenons-en, que ce personnage est gigantesque. Cet homme qui a mis son visage à la place du ciel, cet homme est en feu. Sa bouche est un cratère en tout cas en fusion. Quant à ces mots, ils brûlent à blanc. Si nous prenions comme modèle Jean le Baptiste, alors tout en nous serait extraordinairement marqué et porté par l'action de grâce. D'ailleurs, nous oublions ce qui est en soi particulièrement déplorable, nous oublions que ce nom, Jean-Baptiste, veut dire « Dieu fait grâce ». Ce nom, il le porte à merveille, tant Jean-Baptiste, Dieu fait grâce, a assimilé toute la grâce passée, toute la grâce de la première alliance, qui a défini le cadre, la règle, le rituel et la loi, et du coup, en assimilant cette grâce passée, et peut-être même un peu dépassée, comme de même mouvement, Jean nous montre comment être totalement ouvert et disponible à la grâce inouïe et merveilleuse encore à venir. Autrement dit, à l'Évangile, à l'avènement du Christ, c'est-à-dire à l'alliance nouvelle, au pacte neuf et à la promesse éternelle. Si nous étions à son modèle, si nous étions modèle de Jean-Baptiste, alors nous aussi, nous rendrons grâce pour ce qui nous a été donné, mais aussi à ce qui nous va nous être encore et toujours donné. Et tout en nous serait marqué par ces quelques mots qui seraient l'essentiel de notre prédication et de notre message, de notre témoignage et de notre action. Soyons ceux qui portons la voix de celui qui crie dans le désert et rectifions le chemin du Maître éternel. À l'image de Jean, nous avons là tout un programme de vie spirituelle qui est incontestablement et littéralement à contresens. C'est d'ailleurs peut-être cela qui nous dérange le plus et nous bouscule dans ce modèle si exemplaire. Voilà pourquoi nous préférons l'écarter, ou tout du moins ce qui revient au même, ramener Jean-Baptiste, Dieu fait grâce, à l'image d'un fantasque. À l'image d'un fantasque, vêtu de peau de bête, un original mangeur de sauterelles et un surprenant prêcheur dans le désert, faisant de lui un contestataire et un homme de protestation. Ce qui en soi déplaît. C'en est oublié que chaque mot des Écritures, chaque image des Écritures, sont là pour nous signifier ce qui amène de nous interroger, de nous construire et de nous relever en nous élevant. Vêtu de peau de bête, certainement, car Jean-Baptiste, n'est pas un croyant de balcon d'orgueil qui se donne à voir. Mal à l'aise dans les amples vêtements, les toges, les traînes et les plis flottants, les costumes cravates, comprenons que Jean n'a rien à voir avec quelqu'un qui va simplement à la cérémonie ou au rite. Jean se contente simplement d'avancer dans le vent du temps et des circonstances, tel un exilé de l'avenir dont chaque pas, chaque expression, chaque geste, chaque parole, chaque mot est comme un couteau noir à la lame rouillée qui épluche la terre. Alors, réalisons que ce vêtement de bête sauvage, c'est l'habit des commencements. C'est l'équipage des origines, le harnais des débuts, le costume de la création. Son vêtement sauvage nous rappelle que Jean combat dans un corps à corps avec la nature et avec le tohu-bohu, c'est-à-dire le chaos de son temps, comme si une nouvelle humanité est là, en train de naître, comme si les origines viennent de se fendre en deux et que tel un premier homme qui, à coups d'épaule et de verbe, est en train de franchir la brèche qui sépare le jour et la nuit, la clarté d'esprit avec la confusion et la lumière d'avec les ténèbres. Mangeur de sauterelles, bien sûr que j'en l'ai. Et il est tellement. Et d'ailleurs, c'est un défi auquel chacun de nous, sans le savoir, est aussi confronté jusqu'au tréfonds de sa conscience. Nous le savons, les sauterelles sont une plaie véritable. Elles sont des ailes de famine qui mordent les plantes et se faisant dessèchent chacun et le peuple que nous sommes. Les sauterelles, telles une épidémie mortelle, laissent le moindre des printemps en cendres. Et nous savons ce que cela veut dire, puisque nous sommes en train de le vivre. Alors réalisons qu'en les mangeant, Jean fait de son affaire le mal. Et de la plaie, de cette véritable plaie, il fait sa nourriture. Alors, lorsque devant les nuages noirs du temps, chacun ne pense qu'à se sauver sous les cris pour aller se mettre à l'abri, pour se cacher, pour se confiner, lui, Jean, se met à rire et à dévorer les vieilles peurs. En mangeant les sauterelles, il devient un mangeur des causes de mort et des logiques mortifères. Prêcheur dans le désert. Quelle idée! Quelle idée d'autant plus à nos yeux, nous qui avons la nostalgie des temples remplis et qui aujourd'hui constatons la désertification de nos lieux. Et pourtant, nous avons là une extraordinaire leçon dont chacun devrait en tirer la substance. Au lieu de prêcher aux foules, il prêche dans le désert. C'est fabuleux. Pour convertir le monde, il le fuit. C'est phénoménal. Pour inviter les gens, Jean-Baptiste les injure. C'est énorme. D'ailleurs, c'est tellement fabuleux, phénoménal et énorme que l'impossible se produit et que l'inattendu recule ses limites. Le désert se peuple. Tous, ils arrivent de partout, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, et même, et ce n'est pas peu dire, même de Jérusalem. Même ces croyants purifiés entre tous, portant sur leur front l'ombre exacte du temple. Même ces gens pieux, détenteurs incontestés de la règle morale et de la perfection. Même ces gens de religion qui ne reçoivent la parole que par des voies autorisées. Ils arrivent de partout. Voici le désert remuant de monde. Voici qu'au désert, les vieux ossements desséchés sortent de dessous les paupières du prophète Ézéchiel. Même de Jérusalem, les intérêts vivants de la religion, les envoûtés des règles et des principes, les prosternés de la cérémonie dominicale, même eux descendent de leur balcon ostentatoire pour rejoindre le désert. Énorme, fabuleux, phénoménal. L'esprit des quatre vents de l'immense étendue les soulève à l'épaule et les emporte en tourbillon. L'esprit a réussi à les faire bouger, les mettre en mouvement et à leur faire quitter les remparts de leur certitude et de leur savoir. C'est inimaginable. Réalisons, et réalisons bien, que l'irruption de Dieu dans toutes ces vies n'a pas eu lieu ni par la porte des brebis, ni par la belle porte la plus solennelle du temple, mais par la porte du désert. Réalisons qu'à travers Jean-Baptiste, l'irruption de Dieu nous enseigne que les chemins ne montent pas, ils ne montent plus au temple, mais ils descendent au désert. Dieu est là, au fond des reculs, au grand large des étendues, là où le temps se prend à pleine mer et où le silence va d'un bout à l'autre de la vie, donc bien évidemment à un bout à l'autre de la mort. C'est l'infini, l'infini de l'espace et du temps. C'est l'infini et l'éternité qui est mis à notre portée. Il y a longtemps que nous aurions dû réaliser et ne jamais oublier, en particulier nous, les réformés, qui avons fait du désert une image identitaire, une image d'épinal nostalgique. Eh bien, nous aurions dû réaliser que le désert est depuis notre exemplaire Jean-Baptiste, le désert est désormais le lieu où la démesure de l'homme sert à mesurer Dieu quand justement Dieu n'intéresse plus grand monde. Comprenons bien que notre principale difficulté dans la vie spirituelle, dans notre vie spirituelle, c'est l'occupation de l'espace, en particulier lorsqu'il est désertique. Si notre cœur est plein, si notre vie ou notre engendre déborde, il n'y a souvent plus de place pour Dieu. Il n'y a plus de place pour l'amour, pour le don, pour la gratuité, pour le partage. S'il y a déjà trop de préoccupations en nous, plus rien ne peut entrer, même ce qui devrait être notre préoccupation ultime. Entendons bien, pour prendre cette image, qu'il n'est plus possible de verser quoi que ce soit d'autre, dans un vase déjà plein de liquide. C'est bien pour que nous puissions occuper l'espace que Jean-Baptiste nous exhorte à rendre droit le chemin. Notre chemin intérieur comme le chemin dans le monde. Cela nous engage. Cela nous engage d'abord et avant tout à apprendre à regarder le monde avec les yeux du Christ fait homme en Jésus. Ce qui revient à dire que rendre droit les sentiers, c'est élargir nos horizons. C'est porter notre regard loin pour trouver cette présence qui se trouve au plus intime de nous. Je le disais hier aux enfants, cela n'a aucun sens que le Christ Jésus soit né à Bethléem s'il ne naît pas aussi au-dedans de nous-mêmes. Il est venu à Bethléem pour établir sa demeure au plus intime de nous-mêmes, afin que chacun de nous réalisions que nous sommes la crèche du Dieu vivant, que nous sommes le sanctuaire de celui qui est la vie de notre vie. Nous ne pouvons pas nous trouver sans passer par lui, et il nous est impossible de rendre droit son chemin sans le rencontrer. Jean-Baptiste nous a avertis. Au milieu de vous, là au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas. Effectivement, à l'exemple de Jean, il faut que nous soyons en capacité de le voir. Voir qu'il vient tous les jours qui passent par le sourire de l'enfant, par la tendresse du regard échangé dans l'amour, par la promesse tenue dans l'épreuve. Il vient par l'aide apportée à celui qui cherche à dire et ne trouve pas les mots. Il vient par l'écoute qui entend au-delà des mots celui ou celle qui parle. Il vient par la beauté qui élève le cœur. Il vient par celui qui ne renonce pas à dire vrai. Il vient dans le dévouement de ceux qui savent prendre de leur nécessaire pour le service d'autrui. Et c'est parce qu'il vient dans tous les aspects de notre vie qu'il faut rectifier, aplanir et préparer à tout instant le chemin de sa venue. Rendre droit le chemin, c'est apprendre à découvrir toutes les dimensions de notre existence pour que nous fassions de notre vie un ouvrage de lumière et d'amour. C'est cela. Exactement à l'image de Jean-Baptiste, être témoin de la lumière. C'est cela, être témoin de la lumière. C'est ça exactement, participer au grand projet, en étant porteur de la voix dans le désert de nos existences, où là, à l'exemple de Jean-Baptiste, Dieu fait grâce, nous prenons le temps de rectifier, d'aplanir, de rendre droit le chemin du Maître éternel. Amen.